Alors au port, on est semblable à notre Seigneur glorieux. Nous comprendrons l'incomparable, le grand amour de notre Dieu. Immense amour, amour suprême, inaltérable et fort. Que de nos chants, tu sois le thème, sur terre et dans.
La voix se fait toujours entendre, dont on salivre, dont précieux. Que ton esprit, pour les comprendre, touche nos cœurs, ouvre nos yeux. De ton grand amour, la mémoire se transmet ainsi chez les siens. Au désert, nous voyons ta gloire et goûtons les célestes biens. Oui, cette parole de vie nourrit nos cœurs et notre foi, et sa saveur nous fortifie pour mieux nous attacher à toi. Mais bientôt son doux ministère prendra fin pour ton cher troupeau. Et face à face, en ta lumière, nous te parlerons, saint agneau.
Alors bonjour à tous et merci de votre accueil, merci de votre invitation ici à Angoulême. Donc mon nom est Frédéric Jean, je suis marié avec Isabelle qui est restée à Düsseldorf où nous habitons en Allemagne avec deux de nos garçons. J'en ai amené un aujourd'hui, Edmond, et puis il y en a encore trois autres qui sont répartis en Europe. Voilà, donc je connais un peu la région parce que plusieurs d'entre vous m'avaient déjà vu à La Rochelle plusieurs fois, et puis aussi à Montendre, voilà, je cherchais le nom, Montendre. Et puis on a des souvenirs aussi à Bordeaux, où notre frère Jacques, il y a pas mal d'années, plus de 10 ans, on avait fait des réunions avec de longues lectures, et donc... Notre frère Jacques Méchain avait été ma voix. Il avait fait les lectures pour qu'on soit ensemble à partager le travail. Donc j'ai prévu pour ces moments qu'on regarde les paraboles dans l'évangile de Luc. Alors vous savez que le Seigneur enseignait en paraboles, donc en comparaison. Et quand on regarde les évangiles, il y a dans l'évangile de Matthieu un ensemble de paraboles qu'on peut appeler les paraboles du royaume, sont absolument magnifiques, et c'est un très beau sujet en soi qu'on peut étudier. Et puis, on s'aperçoit, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de paraboles dans l'évangile de Jean. Il y a bien sûr des comparaisons, des similitudes, tous les « moi je suis la porte, moi je suis le chemin, moi je suis le cep », etc., qui ont un petit sens parabolique, mais ce n'est pas du tout dans la même type de construction que ce qu'on voit dans les trois évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc, où vraiment le Seigneur utilise des comparaisons de la vie courante pour faire passer des messages. C'est ça que la pensée de la parabole. Et ce qui fait que, comme il y a de la matière parabolique ou de comparaison, il y en a quand même un peu partout, on ne peut pas vraiment dire il y a combien de paraboles dans les évangiles, c'est difficile. Mais voilà, par exemple, M. Georges André, il en compte 56, et sur ces 56, il y en a 14 qui ne sont que dans Luc. Que dans Luc. Donc on se dit, oula, Luc, c'est vraiment un évangile particulier par rapport aux paraboles. Alors, comme vous les avez, plusieurs d'entre vous, sur vos listes, on ne va pas faire la liste au sens de demander à ce que chacun la donne de tête, mais quand on se pose la question, quelles sont les paraboles, c'est effectivement pas toujours évident de les retrouver toutes. Alors voilà les 14 qu'on a retenues. Le bon samaritain, les trois amis, l'homme riche et ses greniers, le figuier stérile, le grand souper, la tour et les deux rois, la drachme perdue, le fils perdu. Ah, vous dites, oula, mais il a oublié la brebis, là. Oui, sauf que la brebis, elle est aussi dans Matthieu. Donc, c'est pour ça qu'on ne la compte pas. On regarde les paraboles de Luc, celles que seulement Luc a touchées. Le fils perdu, l'économe infidèle, l'homme riche et Lazare. Oui, mais c'est pas une parabole, ça. Alors, ça sera peut-être l'objet de vos discussions de cet après-midi. Qu'est-ce qui est une parabole, qu'est-ce qui n'est pas une parabole, qu'est-ce qui est une histoire, qu'est-ce qui est une parabole. Donc, je l'ai mise, l'homme riche et Lazare, l'esclave qui revient des champs, le juge inique et la veuve, le pharisien et le publicain, et les mines. 14. Non considérés dans la liste, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des micro-paraboles de un verset. Hein, donc, il y a les deux débiteurs au chapitre 7, il y a la charrue, au chapitre 9, il y a les esclaves vigilants au chapitre 12, il y a la première place au chapitre 14. Donc, c'est juste un moyen mnémotechnique. Hein, les 14 paraboles spécifiques de Luc, c'est 14 grandes paraboles ou paraboles substantielles de l'évangile de Luc. Mais comme vous voyez, on pourrait en trouver 18 s'il fallait. Et l'idée, c'est de commencer par 5 paraboles, et on va en faire 2 maintenant, ou 3, et après la pause, les 2 ou 3 suivantes. Et on va d'abord lire, parce que le plus important, c'est la lecture. Et après la lecture, finalement, on peut fermer ses oreilles, parce que la partie la plus importante, bien sûr, c'est la lecture. Et on commence avec le bon samaritain. Luc, évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Et voici, un docteur de la loi se leva pour éprouver Jésus. Et il dit, Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Mais il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs qui aussi l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures s'en allèrent le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint et le voyant, passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant, fut ému de compassion, et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Alors on va suivre aujourd'hui un schéma tout simple, et je pense après 5 paraboles, vous le connaîtrez par cœur. Et parce que vous en aurez besoin cet après-midi pour les petites paraboles sur lesquelles on travaillera. Le schéma, c'est de relire le texte d'abord pour comprendre l'histoire. On va essayer d'abord juste de comprendre l'histoire. 1. Après, on va regarder une interprétation. Une interprétation, donc, c'est qu'est-ce que voulait dire très probablement Jésus avec cette histoire. Interprétation. Et puis après, on va regarder des applications. Qu'est-ce qu'on peut tirer en plus de l'histoire dans nos vies? Et à chaque fois, on en trouvera 5 petites applications à chaque fois. Donc on va d'abord toujours regarder l'histoire, le sens de l'histoire, comprendre l'histoire. Ensuite, on va regarder une interprétation, bien sûr qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais on en a choisi une. Et ensuite, on va regarder des applications. Histoire, interprétation, application. Il faut un peu de discipline parce que sinon, on se mélange vite les pinceaux entre les 3. Et c'est ça qu'on va essayer de ne pas faire. Alors, comprendre l'histoire. On a un docteur de la loi. Un docteur, ça veut dire un enseignant, teacher, lire. C'est quelqu'un qui enseigne la parole. Et il y a une petite première contradiction dans sa façon d'approcher, c'est que faut-il que j'ai fait pour hériter? Voilà quelqu'un qui veut faire et qui en même temps aimerait hériter. Quand on hérite, en général, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose pour hériter. Et il pose la question à Jésus, et Jésus le rapporte à la loi. Qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Et l'enseignant de la loi fait une excellente réponse, puisqu'il fait la synthèse de tout l'Ancien Testament, de toute la partie loi de l'Ancien Testament, avec 2 versets, hein, l'un dans le Deutéronome, l'autre dans le Lévitique, un côté tourné vers Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et puis vers les hommes et ton prochain, comme toi-même, un peu comme un résumé des 2 tables de la loi, les 5 premiers commandements qui sont plutôt tournés vers Dieu, et les 5 commandements suivants qui sont plutôt tournés vers la vie en société, tu ne tueras point, etc. Une excellente réponse, elle est d'autant plus excellente qu'il y a eu une conversation dans l'autre sens un peu plus tard dans la vie de Jésus, où on lui a posé la question et il a fait exactement la même réponse. Et il a été félicité par le docteur de la loi qui lui posait la question, c'était pendant la dernière semaine, la semaine de la Passion, le mardi, et là, c'est l'inverse. Jésus le félicite, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Donc on peut bien répondre, mais avoir des réponses pieuses et creuses, parce que ce monsieur, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alors que on venait de parler de aimer Dieu et aimer son prochain, Jésus lui dit, fait de même. Et lui, il regarde la deuxième partie, et qui est mon prochain? Il aurait peut-être pu se poser la question, et qui est mon Dieu? Parce que s'il n'avait même pas l'œil pour voir qui est son prochain, s'il n'a même pas l'œil pour voir qui a besoin d'aide dans la vie, alors quel œil aura-t-il pour Dieu? 1 Jean 4, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il demandât, et qui est mon Dieu? Mais il pose la question, qui est mon prochain? Alors Jésus commence sa parabole. Et on est toujours dans comprendre l'histoire. Hein. Un homme, donc Jésus n'annonce pas une parabole. Il raconte une histoire. Et peut-être que c'est une histoire vraie. Peut-être que ça s'est bien passé. Il n'est pas dit qu'il nous annonce une parabole. Donc, c'est une histoire peut-être. Mais on comprend qu'elle est très parabolique. Alors, cet homme descendit, d'un peu de géographie, Jérusalem est à 754 mètres d'altitude, et Jéricho à moins 276. Donc on a 1000 mètres de dénivelé entre les deux. Donc on comprend que c'est effectivement une grande descente. Et il tombe entre les mains des voleurs, il est dépouillé, là il n'y a pas besoin d'expliquer tellement plus, et arrive un sacrificateur, qui était donc un religieux, hein, la partie la plus haute des religieux de l'époque, et un lévite, deux religieux, le lévite plutôt un serviteur, donc là aussi peut-être le sacrificateur nous fait plus penser à la partie tournée vers Dieu, le lévite peut-être plus tournée vers les hommes, et de nouveau avec ces deux-là, avec le sacrificateur et le lévite, on a peut-être les deux images de personnes religieuses, les deux table de la loi de nouveau. Et voilà que ces deux religieux ne s'intéressent pas aux blessés, c'est une attitude légale, et ils trouvent de bons motifs, peut-être qu'ils ne veulent pas toucher le sang, c'est que les juifs ne voulaient pas toucher le sang pour ne pas être impurs, et pour ces mauvaises raisons sûrement, eh bien, ni l'un ni l'autre ne prêtent d'aide à ce blessé. Seul l'amour est capable, et c'est pas cette loi qui va nous aider à aider l'autre. Seul l'amour en est capable. Toujours pour comprendre le texte, un Samaritain allant son chemin, un Samaritain, on connaît dans les évangiles des choses qui nous donnent un peu des informations sur ces Samaritains, qui étaient ce peuple situé au nord de Jérusalem, au sud de la Galilée, qui était un peu d'origine hébreu eux aussi, mais c'est un peuple qui avait été transporté par les Assyriens bien avant que les Juifs, eux, de Jérusalem soient transportés, et donc on se retrouve avec une religion un petit peu mélangée, où il y avait encore beaucoup de choses de la religion juive, mais influencée également par ce qu'ils avaient appris en Assyrie ou ailleurs. On a Jean 4, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine, car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Ou bien Jean 8, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon? Donc le samaritain, c'est vraiment le mépriser par rapport aux juifs, aucune relation entre les deux, le mépriser. Donc ce samaritain passe, il est méprisé, et voilà quelqu'un qui allait son chemin, verset 33, et prête aide aux blessés, verse de l'huile et du vin, hein, l'huile et le vin, le gras et le désinfectant, des bonnes choses pour les plaies, il y a sûrement des gens, des médecins ou des gens dans la salle qui savent bien ça. Il le confie ensuite à l'hôtelier, et le lendemain, s'en allant, il était en chemin lui-même, et le lendemain, il s'en va, voilà quelqu'un qui a aidé le blessé, mais qui n'a pas interrompu sa vie, il a, on va dire, délégué à l'hôtelier de travail, et il est parti. Et on a, à la fin de la parabole, un effet de surprise, puisque quand on lit la parabole, et qu'on était dans la démarche « qui est mon prochain ?», eh bien, on a peut-être un peu tendance à dire que ce prochain, c'est celui qui doit avoir besoin d'aide. Donc, c'est comme ça qu'on serait naturellement tenté de comprendre. Mais évidemment, dans ces conditions, je suis qui, moi ? Je suis le Samaritain maîtrisé, je suis le sacrificateur, je suis le Lévite. Donc, on voit, et le Seigneur fait un effet de surprise à la fin en posant la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ? C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Le docteur de la loi était donc invité à s'identifier à ce souffrant dans le besoin et devait accepter l'aide de l'étranger méprisé pour l'aimer à son tour. Donc on a compris l'histoire. Si maintenant on recherche une interprétation, il y en a une première peut-être vraiment pour l'interlocuteur. Qu'est-ce que Jésus lui a dit à lui, à ce monsieur qui lui a parlé ? Donc on pourrait l'appeler une interprétation de premier niveau pour l'interlocuteur. Tu me demandes ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Tu te justifies en demandant qui est ton prochain. Tu es en fait le pauvre blessé, tu es perdu, tu as besoin d'aide. Et celui qui t'aide, c'est le mépriser, le rejeter, pas les religieux juifs. Je suis le méprisé, Jésus, je suis le méprisé, celui auquel tu ne pensais pas, tu as besoin de moi, et je suis là pour toi, et ton amour me revient. Va et fais de même. Ça pourrait être vraiment une interprétation au premier niveau, pour son interlocuteur. Maintenant, on peut un peu élargir cette interprétation-là, plus largement, et dire, voilà, l'homme descend, loin de Dieu, Jérusalem, la ville de Dieu, vers Jéricho, la ville de la malédiction, il est perdu, l'homme est perdu, et il peut faire dans le monde de mauvaises rencontres. La religion, le sacrificateur et le lévite, ne peut rien pour lui, le sacrificateur représente la table de la loi côté Dieu, le Lévite, la table de la loi côté de l'homme, et le salut vient du côté qu'on n'attendait pas. Le salut vient du côté qu'on n'attendait pas. Jésus s'est approché de nous sous les traits d'un homme méprisé. Il nous sauve, nous met sur sa propre bête, sur sa propre monture, peut-être le Saint-Esprit qu'il a porté dans son chemin nous donne aussi sa force aujourd'hui. Et Jésus nous confie à l'Église, l'hôtellerie, au soin peut-être aussi du Saint-Esprit, l'hôtelier, il vient bientôt nous chercher, quand il dit « je reviendrai » à mon retour, et il a pourvu à notre nourriture et à nos soins pendant son absence. Toujours dans cette interprétation, on peut aussi voir dans l'hôtelier, eh bien une image peut-être, d'abord du Saint-Esprit, ou alors des serviteurs du Seigneur qui s'occupent de prodiguer soins et nourriture au peuple de Dieu, et le Seigneur leur promet, à son retour, de leur rendre. Donc la notion de récompense qu'on a dans d'autres paraboles. Et Christian Brim, un frère allemand, fait ce commentaire à la fin. La question du Seigneur au verset 36 contient une inversion de la direction du regard. Jusque-là, le prochain était celui à qui il était fait miséricorde, mais maintenant le prochain est celui qui exerce la miséricorde. Le Seigneur veut orienter le regard sur lui-même, le vrai Samaritain miséricordieux. Lui est le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs, le prochain de chacun de nous. On a compris l'histoire, on a une interprétation. Maintenant, 5 petites applications. La première, c'est savoir se faire aider. Accepter que l'on est faible. C'est faire d'heureuses rencontres comme Jésus l'a montré en demandant à boire à la Samaritaine au puits de Sichar. Donc, accepter de se faire aider, accepter qu'on est faible, accepter qu'on est parfois se blesser, qui a besoin d'une aide, eh bien, ça va faire d'heureuses rencontres. Et il y aura un lien qui va forcément se créer ici entre le blessé et le Samaritain. Une deuxième application, face à la souffrance, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on détourne le regard ou est-ce que, et on passe de l'autre côté du chemin, ou est-ce que on aide sans pour autant complètement arrêter son programme? Le Samaritain allait son chemin et il a ensuite laissé le blessé aux soins de quelqu'un d'autre, mais il s'y intéresse. Donc on peut, face à la souffrance, s'intéresser, aider un temps, mais laisser à d'autres la suite. On ne peut pas arrêter toute notre vie pour s'occuper de la souffrance de tout le monde. On doit aller son chemin, on doit faire ce qu'on a à faire, mais on s'y intéresse et on revient et on prend des nouvelles. Une troisième petite application, l'huile, le vin, la monture. On peut apporter de la douceur, de la joie, de l'assistance, généreusement autour de nous et ressembler à Jésus. On peut apporter des médicaments, peut-être. On peut offrir un moyen de transport, peut-être, à des gens qui en ont besoin. Quatrième petite application, les 2 deniers pour l'hôtelier. Eh bien, on peut soutenir, par nos moyens financiers, des œuvres auprès des nécessiteux. On peut prier pour le travail de ceux qui sont sur le front et prendre des nouvelles à mon retour si tu as dépensé quelque chose de plus. Cinquième petite application, mon prochain fait de même, eh bien découvrir dans celui qui m'aide l'amour dont Dieu est la source et rendre à celui qui m'aide cet amour de Jésus. Découvrir dans quelqu'un qui m'aide l'amour. Et comme Dieu est la source de l'amour, eh bien, quelqu'un m'aide et je vois l'amour de Jésus qui est manifesté. Et je puis rendre ensuite à celui qui m'aide cet amour de Jésus. Voilà. On a compris l'histoire, on a une interprétation et on a 5 petits exemples d'application. On va passer à la deuxième. Le grand souper. Donc la deuxième grande parabole. La parabole du grand souper, chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit « Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu !» Et Jésus lui dit « Un homme fit un grand souper. » Et il convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave dire aux conviés « Venez, car déjà tout est prêt. » Et ils commencèrent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que je m'en aille, et que je le voie. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, et à cause de cela, je ne puis aller. » Et l'esclave, s'en étant retourné, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave, « Va-t'en promptement dans les rues, dans les ruelles de la ville, et amène ici les pauvres, et les estropiés, et les aveugles, et les boiteux. » Et l'esclave dit, « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. » Et le maître dit à l'esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contraint les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Donc vous vous souvenez la méthode? On va d'abord essayer de comprendre l'histoire. Alors, la première chose, évidemment, c'est de se dire, mais cette parabole, elle ressemble quand même à une autre. Donc, comme on est dans Luc, on va pas commenter Matthieu, d'accord, hein? Mais c'est vrai qu'il y a dans Matthieu, chapitre 22, la parabole d'un roi qui fait des noces pour son fils. Et donc, elle se ressemble. Donc, il y a quelques ressemblances, c'est vrai. Invitation à un dîner, de fête, dans un mariage, et ici, c'est un grand dîner. Refus des premiers invités, avec des arguments qui se ressemblent un petit peu. Chant, trafic, en Matthieu. Chant, bœuf, épouse, en Luc. Invitation large à d'autres invités, tant mauvais que bons, dans Matthieu, pauvre estropié, aveugle, boiteux, dans Luc, ok, et puis une parole sévère à la fin, jetez-le dans le ténèbre de dehors, dans Matthieu, aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. Donc quelques ressemblances qui nous montrent un point très important à comprendre dans les évangiles, c'est que le Seigneur Jésus, comme bon enseignant, réutilisait du matériel d'enseignement à d'autres occasions de son ministère. Et donc, les deux paraboles qui se ressemblent, c'est tout à fait normal d'utiliser de la matière d'enseignement, matière de parabole, pour différents contextes, différentes situations. Et il les adaptait, bien sûr, à son auditoire et au moment où il voulait enseigner. Alors, si on se concentre sur notre histoire, comprendre l'histoire, on est dans un contexte où Jésus est à table. Hein, verset 12 du chapitre 14, il avait été convié, fait un commentaire sur le dîner, etc. Et alors, il y a un enthousiaste, là, il est à table, et alors, c'est beau, il ne peut pas s'empêcher, il est à table et il dit, « Ah, bienheureux, celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu !» Alors, on sent quelqu'un qui est un peu, oui, enthousiaste. Et vous voyez la fluidité avec laquelle le Seigneur s'embarque dans sa parabole. Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Et il lui dit, un homme fit un grand souper et il raconte l'histoire. Alors ça, c'est un exemple extraordinaire de ce que chacun de nous peut faire quand il invite à sa table. Si on invite à notre table un collègue, si on invite les amis de nos enfants, si on invite des voisins, si on a l'occasion d'avoir un repas avec des gens qui connaissent pas bien la parole, peut-être qu'ils sont pas du tout chrétiens. Et il y a un moment, une remarque qui est faite. Il y a quelque chose, il y a une espèce de perche qui est lancée. Et avoir avec la fluidité du Seigneur, cette capacité de s'embarquer dans une histoire. Et le mieux, c'est quand vous commencez à raconter une histoire de la Bible, et comme vous vous en souvenez pas par cœur, surtout ne vous en souvenez pas par cœur, je m'en souviens pas par cœur, et vous allez ouvrir la Bible. Pour la lire, ou pour la raconter avec le texte. Et là, vous imaginez les faits. Et on a là vraiment un exemple, comme le Seigneur fait, de la spaghetti évangélisation. Donc vraiment cette capacité fluide de faire un enchaînement ici dans son enseignement. Alors, on a compris qu'il y a une première invitation qui était faite à l'avance, et ensuite il y avait un rappel le soir du souper. Donc, il y convient beaucoup de gens, et à l'heure du souper, il envoie. Donc, une première invitation et un rappel à l'heure du souper. Important à comprendre. Tous unanimement, mais on sent qu'il y a des prétextes dans ces excuses. Alors, celui qui l'a acheté un champ, il faut nécessairement qu'il le voie. Donc, il l'a acheté sur Internet avec des photos, il ne l'a pas encore vu, peut-être, admettons qu'il ne l'ait pas encore vu. Et alors quoi, il va le voir là ce soir, de nuit ? Comment il va faire pour le voir ce soir de nuit? Pas très logique. Le champ ne va pas s'enfuir, il pourrait le voir demain. L'autre, il a acheté 5 couples de bœufs. Alors il est travailleur, il veut les essayer, pareil, il veut travailler la nuit, le soir. Parce que la nuit, il se couche à 6 heures, hein, en Israël. Alors, le soir, de nuit, il faut encore qu'il aille essayer les 5 couples de bœufs.
Vrai travailleur, celui-là, hein.
Et puis, l'autre, il a épousé une femme. Il ne peut aller. Et il donne même pas d'excuses à la fin. Je ne peux pas y aller. On est d'accord qu'il veuille passer la soirée avec sa femme. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, la date du mariage, elle était peut-être connue. Donc, il avait reçu une première invitation. Peut-être qu'à l'époque, il aurait déjà pu dire qu'il ne serait pas libre. Pourquoi rester dans le flou et faire de la peine à la fin? Pourquoi le maître se met-il en colère? Parce qu'il a bien compris que les excuses sont superficielles. Et alors, il invite d'abord dans la ville, il y a des pauvres, les estropiés, aveugles et boiteux, une façon de faire comprendre aux impolis qu'ils ont raté l'occasion et qu'ils valaient moins que ces personnes souffrantes et rejetées. Et puis, il y a encore de la place, ça nous rappelle que c'est une grande maison, un homme très riche, un très grand souper. Les chemins, les haies, on comprend, c'est la campagne plus étendue, hein, les chemins, les haies, donc c'est plus loin que la ville. On est toujours dans la compréhension de l'histoire, d'accord? Pas encore d'application, pas encore d'interprétation. Et puis, aucun des conviés ne goûtera de mon souper, c'est une parole sévère, ne goûtera. Donc on comprend que le souper, ça devait être la classe. Hein, et la punition, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le goûter. Donc, vraiment une très 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 belle fête à la hauteur de la grandeur de cette personne. Voilà, on a compris l'histoire. Maintenant, si on fait une interprétation, Dieu est grand, riche, généreux, et il invite à une fête de qualité. Le peuple juif a été invité à l'avance, c'est la fameuse première invitation. Il a été invité à l'avance par les prophètes. Mais par la venue du Christ sur la terre, pour son peuple, tout est prêt. Tout est prêt et l'invitation aux juifs est faite. Ils doivent entrer à la fête, le royaume s'est approché. Les juifs sont invités à entrer à la fête. Mais tous les prétextes sont bons pour les conduire à présenter de fausses excuses. Le champ, c'est les possessions. Les bœufs, c'est le travail. Les poules, c'est les relations. Possession, travail, relation, des fausses excuses pour ne pas entrer. Et le côté unanime, eh bien, ça nous rappelle qu'il y a un accord très grand entre plein de gens très différents quand il s'agit de refuser l'évangile. Hein, des gens qui peuvent être très très différents dans la vie, mais quand on veut refuser la bonne nouvelle, eh bien, il y a un côté unanime. Alors Dieu est en colère contre son peuple, la colère ici, il ouvre les portes de la grâce aux autres, d'abord aux gens de la ville, juifs, pauvres, handicapés, tous ceux que Jésus a rencontrés dans sa grâce au cours de son ministère, donc ça c'est tout le ministère qu'a eu Jésus, refusé par les officiels juifs, mais accepté par le peuple de ceux qu'il a soigné, guéri, etc. Et ensuite, comme il y a encore de la place, dans la maison de Dieu, les portes sont ouvertes à ceux qui sont loin, c'est les gens des nations, et le serviteur, image du Saint-Esprit, contraint les gens d'entrer, c'est lui qui convertit les cœurs, le serviteur, contraint, donc il convertit les cœurs dans l'interprétation, le Saint-Esprit travaille les cœurs pour que la maison soit pleine, et la maison sera remplie quand la plénitude des nations sera rentrée, Romains 11, et il y a encore de la place aujourd'hui, et ça se termine par un jugement, une parole sévère sur ceux qui refusent l'appel du salut. Voilà une interprétation simple et claire. Et maintenant, 5 applications. Alors, comme vous l'avez vu, dans l'interprétation, l'appel, c'était l'appel des Juifs. Ok, historique. Les Juifs qui avaient été appelés par les prophètes et le Seigneur appelle pendant son ministère. Mais maintenant, la première application, quand même, c'est d'appliquer ce texte à l'Évangile aujourd'hui. Et donc, de l'appliquer. Quand Dieu appelle les hommes, il ne faut pas que l'incrédule refuse l'invitation par des mauvaises raisons. Ça, c'est la toute première application, c'est d'appliquer ce texte à un incrédule qui met des prétextes pour ne pas accepter l'invitation du Seigneur au souper de la grâce. Ça, c'est une application. Hein, ce n'est pas une interprétation, c'est une application. Maintenant, on peut aussi se l'appliquer à des croyants. Deuxième application, quand Dieu appelle des croyants à des moments de joie, à des moments de communion, eh bien, on peut nous aussi, croyants, manquer ces bonnes occasions à cause de nos possessions, à cause de notre travail, à cause de nos affections, qui peuvent nous mettre à l'écart de ces moments de bénédiction où Dieu nous veut peut-être avec son peuple, où nous veut dans la joie et la communion avec lui. Troisième petite application, tenir nos engagements. Tenir nos engagements. Si nous avons dit oui à une invitation, une offre d'emploi, un rendez-vous, allons-nous tenir parole ou choisir au dernier moment ce qui nous convient le mieux ? Choisir au dernier moment ce qui nous convient le mieux. Sans prêter attention à la peine que l'on provoque sur celui ou celle qui comptait sur nous. Quatrième petite application, quand avons-nous ouvert la dernière fois notre maison, notre fête, à des inconnus, des pauvres, des handicapés, des rejetés, pour qu'ils passent un bon moment? Cette parabole en est un exemple. Et puis, une cinquième application, contraint les gens d'entrer. Donc, on a compris, si c'est l'image du Saint-Esprit, lui, il a le droit de contraindre. Mais et nous ? Parfois, avec un peu de tact, il faut pousser un peu certaines personnes à faire un pas pour passer la porte d'une maison privée, ou d'une salle, comme aujourd'hui, ou d'une église. Parfois, ce sont nos adolescents, on a besoin d'un petit peu les contraindre pour qu'ils viennent encore à l'église ou à des conférences comme ça. Alors on contraint un peu, et puis il y a bien des cas où des personnes seront un jour reconnaissantes qu'on a un petit peu poussé dans le dos, parce qu'ils auront goûté les bénédictions du Seigneur. Ben, on a déjà fait les trois quarts d'heure. Donc on va plutôt faire trois tout à l'heure. Après la pause, oui, je pense. Oui, si on a déjà fait trois quarts d'heure. Tu as peur qu'on ne tienne pas le délai? On est bien lancé là? Toi, tu es bien lancé. La salle est bien lancée? Attends, c'est une grande parabole, hein, c'est le fils perdu. D'accord? Ok. Mais on peut faire le fils perdu, oui, parce qu'après on a quand même l'économe, hein. L'économe, c'est un peu difficile, hein. D'accord? Donc on va faire le fils perdu. Chapitre 15. Mais par contre, ah oui, ça c'est mon eau, ou qui sont gentils. Alors, le fils perdu. Chapitre 15, verset 11. Et il dit, Jésus dit, un homme avait deux fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux, donc des cochons. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Étant revenu à lui-même, il dit « Combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds et amenez le veau gras et tuez-le. Et mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère. Et son fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. Ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Mais son père étant sorti, le pria. Mais lui répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. » Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, d'abord comprendre l'histoire. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. C'est comme si son père était déjà mort. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que le père leur partagea le bien. Absolument incroyable que ce père le fasse. Et le jeune homme dissipa son bien, c'est le même mot que ce qu'on va lire tout à l'heure avec l'économe infidèle qui dissipait les biens au verset 1 du chapitre 16. Donc il dissipe. Et il vit dans la débauche, et il n'y a pas de détails. Ensuite, il va paître des pourceaux, des cochons, et c'est cohérent avec le pays éloigné, puisque on est dans un contexte juif, quand on va dans un pays éloigné, ce n'est plus des juifs, et donc on peut avoir des cochons, on sait bien que les juifs n'élevaient pas de cochons. C'est donc pour ce jeune homme une déchéance supplémentaire d'être envoyé au milieu des cochons. Il pense à son père et aux serviteurs salariés, et donc on apprend que le papa avait une grande propriété avec de nombreux serviteurs salariés. Donc, il avait partagé le bien, mais soit il avait conservé l'usufruit, soit il en avait encore plein, et en tout cas, dans ce grand domaine, eh bien, ça continuait, il y avait des serviteurs, et ils étaient bien nourris, et ils étaient nombreux. Combien d'eux, hein, ils étaient nombreux. Quand le fils revient, le papa court à lui, c'est le papa qui court, et il se jette à son cou, marque d'affection profonde et d'une profonde émotion, avec des larmes, liées à des retrouvailles ou séparations. Plusieurs textes pour le rappeler. Ésaü courut à la rencontre de Jacob, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Genèse 33. Joseph se jeta au cou de Benjamin et pleura. Genèse 45. Joseph se jeta au cou de Jacob et pleura. Genèse 46. Et acte 20, ils versaient tous beaucoup de larmes et se jetant au cou de Paul, ils le couvraient de baisers. Donc vraiment, se jeter au cou, c'est ça. C'est beaucoup d'émotions et c'est des retrouvailles ou des séparations. Ensuite, quand il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », ce sont des mots de confession très profonds. Et on remarque, bien sûr, que le fils avait fait une préparation où il avait envisagé de dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs », mais quand il est devant le papa, il ne le dit plus. Donc, soit parce que le papa lui a pas laissé le temps de le dire, soit parce que lui-même a compris que ça n'était plus le moment de le dire. Le fils ne se connaissait peut-être pas encore, il se croyait encore digne d'être serviteur, et quand il voit l'amour de son papa, eh bien, il découvre ce que c'est que l'amour du père, et peut-être qu'il comprend qu'il n'est même plus digne d'être serviteur, et qu'en tout cas, ça ne peut pas convenir. La seule chose qui convenait, c'est d'être de nouveau fils. La plus belle robe, l'anneau, peut-être avec le sceau, les sandales, tout ça, la fête, c'est autant de signes qui témoignent que le pardon est total, et c'est public, tout le monde le comprend. Donc le pardon est total et la communion est entièrement restaurée. Par contre, quand le papa dit devant tout le monde « Mon fils était mort et il était perdu », il pose donc des mots très forts sur son jugement de la situation. Donc le papa, il avait très bien estimé dans quel état était son fils et il le dit aussi clairement devant tous. Donc il y a cet extraordinaire pardon du papa, mais il a posé aussi des mots sur la situation du fils. Perdu, retrouvé, se réjouir, trois mots clés des trois paraboles de ce chapitre, donc ils forment un triptyque, mais on étudie là ensemble que la troisième, mais on pourrait dire que c'est la troisième tableau de ce triptyque qui est la parabole des choses perdues dans le chapitre 15. Ton frère est revenu sain et sauf. Ah, ah, sain et sauf. Ça veut dire qu'il s'était peut-être bien inquiété sur la sécurité aussi de ce qui aurait bien pu arriver à son fils. Donc ce sain et sauf, c'est assez touchant, puisque le papa sûrement se faisait du souci. Tu ne m'as jamais donné un chevreau, dit le grand frère, alors que le papa lui avait donné la moitié. On avait lu au début, donc une certaine incohérence, injustice un peu, tu ne m'as jamais donné un chevreau, il lui avait donné aussi la moitié des biens au début, une grosse somme. Celui-ci, ton fils, est revenu, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils, donc il est dans cette attitude un peu de négative, et vous avez remarqué, que dit-il ce fils aîné, celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, comment le sait-il? On n'a pas de détails au début. Est-ce que le fils aîné est allé en pensée avec son petit frère? Est-ce qu'il s'est imaginé des choses? Est-ce qu'il a brodé dans sa tête? Et puis, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Quelle invitation à la communion. Quelle générosité de ce père. Quelle chaleur. Et ça se termine avec l'autorité du papa. Il fallait faire bonne chère et se réjouir. Une assurance, un message sans équivoque pour le fils aîné, pour l'inviter à la fête, et on ne sait pas ce qu'il aura décidé. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, une interprétation. Alors, au début du chapitre 15, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole. Et ça commence avec le triptyque, la brebis perdue, la drachme perdue, les fils perdus, les deux fils perdus. Donc, on est bien dans ce contexte-là où on a des gens qui murmurent, qui critiquent le fait que Jésus accueille le pécheur. Voilà le contexte de la parabole. Et autant la première parabole fait comprendre qu'il y a 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, la seconde, il n'est pas parlé de ça, et la troisième nous met vraiment alors en scène le fameux juste ou soi-disant juste, celui qui s'estime n'avoir jamais transgressé un commandement, donc ce qu'on va appeler le propre juste, est mis en scène et il a du mal à accepter la grâce pour les autres. Alors, un homme avait deux fils, Dieu est le créateur de tous les hommes, tous sont englobés ici dans cette vision, il est le père d'Adam, hein, d'après la généalogie de Luc 3, et le père est l'image de Dieu, généreux, qui partage, aimant, hein, on voit toute cette attitude, et l'image, le fils cadet, le jeune, image de l'homme qui veut faire sa vie sans Dieu, faire sa propre volonté, gaspiller le temps, les capacités, la santé que Dieu lui a confiée, il vit pour lui-même. Et il est très pressé de partir au loin, il ramasse tout, alors que le père n'était pas un homme dur. Et il vit cette famine, personne ne lui donnait rien, le monde et le diable ne donnent rien, ils prennent, seul Dieu donne, mais on ne veut pas de lui. Et ce jeune cherche d'abord du secours auprès d'un citoyen de ce pays, mais il va faire maintenant son chemin de repentance. Le souvenir de la maison paternelle le réveille, et on a d'abord la repentance, c'est son changement de pensée, quand il est dit, il revient à lui-même. Changement de pensée, il commence à réfléchir. Combien de serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je dirais j'ai péché. C'est sa repentance, changement de pensée. Il n'est pas seulement dans le besoin, comme on avait lu, mais il reconnaît qu'il périt ici de faim. Donc, il a vraiment porté un jugement sur sa situation. C'est ça, repentance, changement de pensée. Après la repentance, la conversion. Il se lève et il vint vers son père. Se levant, il vint vers son père, vers ses vins. Repentance, conversion et maintenant confession. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, c'est ce que je suis. Confession totale, ce que j'ai fait, ce que je suis. Il y a mes péchés et je suis un pécheur. Repentance, conversion, confession et maintenant communion. La communion est rétablie entre le pécheur et Dieu. Il n'est pas question, bien sûr, d'être dans une relation serviteur-employeur-contrat, avec comme un mercenaire, absolument pas question. Seule la position de fils convient au pécheur repentant. Le père couvre de baisers avant même qu'il y ait le moindre mot de confession qui ait été prononcé, parce que la grâce, le cœur de Dieu sont ouverts aux pécheurs sans qu'il y ait à attendre aucune prestation préalable. Le pécheur n'a rien besoin de faire pour être accueilli par la grâce de Dieu. Car mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, c'est donc dans la maison du Père que le pécheur prend conscience de la situation catastrophique de son état juste avant. C'est là que tout vient dans la lumière. Et il n'y a pas de reproche. Le Père accueille et ouvre ses bras. Dieu nous revêt alors de la robe de la justice, vous avez revêtu le Christ, Galates 3, c'est l'image de cette robe, et ayant reconnu son péché, il s'en remet complètement à l'amour qui l'accueille, et c'est le papa qui fixe maintenant toute la position du fils. Il faut faire la fête. Dieu ne nous invite pas à un ciel au rabais, hein, on l'a vu déjà dans le grand souper, c'est de la grande fête, c'est une vie en abondance, c'est une fête, comme la parabole du grand souper ou bien la parabole des noces pour le fils. Un roi fit des noces pour son fils, donc l'évangile, le message de Dieu, c'est une très grande fête. Et la joie est là, ils commencèrent de faire bonne chère, de se réjouir, et il n'est pas question d'avoir fini. Ensuite, le fils aîné arrive dans la parabole, et il est l'image des pharisiens et des scribes du début du chapitre, qui murmuraient et qui pensaient n'avoir jamais transgressé les commandements de Dieu. Donc, c'était les fameux 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il les appelle les propres justes, 99 qui n'ont pas besoin de repentance, le fils aîné qui dit « Je n'ai jamais transgressé ton commandement ». Donc, ils n'entraient pas dans le royaume de Dieu, et ils empêchaient les gens d'entrer, Matthieu 23. Donc, c'était la situation des officiels juifs de l'époque de Jésus, n'entrant pas dans le royaume des cieux, ils ne laissaient pas ceux qui voulaient entrer. Voilà, on a, ok, donc on a un centième, un dixième, un demi, oui c'est ça, c'est une petite progression entre les trois, hein, les trois du triptyque. Au début, on en a un sur 100, après on en a un sur 10, à la fin c'est un sur 2. Donc en fait, façon aussi de mettre en relief qu'on peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire que soit on est plutôt celui qui revient de loin, soit on est le risque d'être le propre juste, et le 1 sur 2 remet tout le monde à sa place. Chacun risque à un moment ou à un autre d'être dans un des deux groupes. Ce propre juste, à la fin, il a même l'audace de faire des reproches à Dieu pour son injustice, parce que le légaliste, lui, celui qui se base sur la loi, ne peut jamais comprendre la grâce de Dieu, elle lui est complètement étrangère. Et Dieu est très ferme dans son appréciation, à la fin. Il n'y a pas d'ouverture possible. Il fallait faire bonne chère et se réjouir. L'invitation est ouverte. Dieu se réjouit quand un pécheur se repent, et il invite aussi le propre juste à cette même fête. Maintenant, quelques applications. 5 petites applications. Donc, si on interprète, comme je l'ai fait, le fils perdu, le premier fils, à l'homme perdu loin de Dieu, et le papa, le Dieu créateur, alors la première application, évidemment, c'est de l'appliquer à un chrétien. C'est d'appliquer le chrétien qui s'éloigne de son père. Donc, il est déjà chrétien, il a déjà la vie, il a déjà un père, et il s'en éloigne pour vivre dans la débauche. Donc, ça, c'est une... Si on a choisi l'autre interprétation, là, ça devient une application. Et c'est intéressant, parce que, dans ce cas-là, on se dit, oui, voilà quelqu'un qui a déjà son père, il s'éloigne, mais il n'a pas son statut de fils. Et il va être repris, effectivement, comme fils, comme il l'a toujours été. Qui est tout à fait une belle pensée, en accord, bien sûr, avec l'enseignement de l'Évangile. Et ce qui est aussi intéressant dans cela, c'est que quand un enfant de Dieu, un chrétien, s'éloigne et revient, mais lui aussi, il a besoin de confession, de conversion, de confession, pour que la communion soit rétablie, que la relation soit parfaitement rétablie, de façon publique aussi, avec les serviteurs qui sont témoins. Et donc, une leçon pour toute église, pour toute communauté, pour toute famille aussi, quand quelqu'un revient, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on ressemble au fils aîné qui avons du mal à accepter cette grâce? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir avec tendresse, à pardonner pleinement? Ou est-ce que nos pensées vont, comme le fils aîné, avec les prostituées, et on est ensuite agacé par la grâce, comme le prophète Jonas, agacé par cette bonté de Dieu qui a voulu pardonner à Ninive. Donc ça, c'est vraiment une application importante de si un croyant revient, est-ce qu'on est agacé par la grâce ou est-ce qu'on se réjouit et est-ce que la communion est pleine et entière, sans allusion, sans arrière-pensée. Deuxième petite application, je dis petite parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau peut-être, là c'est comment élevons-nous nos enfants par rapport au bien matériel ? Ont-ils cette relation de confiance, tout ce qui est à moi est à toi ? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on fait des comptes dans la famille ? Se sentent-ils bien en famille ? Peuvent-ils inviter des amis sans crainte de déranger ? Hein ? Tu m'as jamais donné un chevreau pour inviter mes amis, mais enfin, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, une bonne question à se poser dans les familles. Troisième application, dans la parabole, on peut nous aussi se comparer à ces serviteurs qui apportent la robe, qui apportent l'anneau, qui apportent les sandales, parce qu'on peut faire connaître en tant que serviteur aux jeunes convertis eh bien, la liberté qu'ils ont en Christ, la robe, la beauté d'une vie qui ressemble à celle de Christ, l'anneau, c'est la communion, c'est la prière, les sandales, c'est la beauté des pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Donc on peut ressembler à ces serviteurs qui accueillons aussi le nouveau converti. Et puis, une quatrième application, si quelqu'un est aigri, si quelqu'un est amer dans l'église peut-être, et qu'il ne veut plus venir, il ne veut plus entrer, il ne vient plus. Est-ce qu'on est comme ce papa, qui sortons à la rencontre, qui parle, et il parle de, le premier parle de ton fils, mais on peut aider bien sûr à y voir son frère, ton frère. Et dernière, cinquième et dernière application, il y en a bien sûr beaucoup plus, mais on en a cinq ici. On a la patience et la générosité de ce papa. On voit l'équité entre ses fils, hein, mais il a une réponse adaptée et différenciée en fonction des besoins. Il sait marquer le coup, il sait faire la fête, tuer le veau gras, célébrer. Donc il sait marquer le coup, mais pendant la fête du plus jeune, il reste attentif à son autre fils, passe du temps avec l'autre, il sortit. Et le pria, il ne fait pas de reproche, et il invite à montrer quel bel exemple d'un papa qui s'occupe ainsi de ses enfants. Voilà, on va faire la pause.